BD culte, exploration de planches iconiques du 9e art, ce mois-ci nous allons revenir sur l'univers de Jacques Martin, le grand illustrateur de l'histoire en général et de la BD franco-belge. Et pour cet épisode, nous allons parler de Alix, et pas Astérix, hein, Alix, le héros qui n'est pas romain, qui n'est pas gaulois, qui est plutôt romain. Mais justement, si je me suis un peu empégué, c'est qu'il y a tout un problème d'identité chez Alix entre qui suis-je, gallo ou romain. Voilà, Alix est une série qui est créée en 1948, il va voyager dans le monde antique, de la Gaule à la Chine, en passant par l'Afrique et la Mésopotamie. Il va déjouer des intrigues les plus tragiques dans un univers où le raffinement des arts se mêle à la fureur des batailles et à l'âpreté des complots. Donc Alix a fêté ses 75 ans en 2023. On a, pour les amateurs, un très beau catalogue du Centre National de la Bande Dessinée de 2018. Et dans l'actualité, fin octobre 2023, nous avons Alix, le tome 42. Donc Jacques Martin était totalement pour la suite de ses personnages. Et c'est Marc Jailloux qui s'y colle au dessin et Roger Setter au scénario. Et le bouclier d'Achille voit le retour de Alix et d'un méchant qui s'appelle Arbacès, qui est un ennemi iconique d'Alix. Donc nous allons, à l'occasion de cette ressortie, comme d'habitude, évoquer un album phare de cette série. Nous allons évoquer Les Légions Perdues, le 6e album de Alix, donc, qui date de 1965, où la série prend un nouveau souffle, tant graphique que narratif. Nous parlerons des planches 10 et 11. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces histoires étaient publiées effectivement aux éditions du Lombard, après une publication au journal Tintin. Mais petit à petit, il y a eu un peu de dos dans le gaz, puisque Raymond Leblanc, qui s'occupait de Tintin, c'était pas la priorité des albums. Donc, à un moment donné, notre Jacques Martin est passé chez Casterman. Et là, cet album, c'est un des premiers qui est publié chez Casterman, et qui va du coup avoir une audience assez importante, puisque Casterman va miser sur ce héros, et ça va marcher. Avec malheureusement, effectivement, des petits épisodes d'interdiction, parce que l'album est très violent. On y voit une allégorie aux push des généraux, donc pas de bol, il y a une controverse, mais René Goscinny intervient, et l'album va avoir une belle carrière et est toujours considéré comme un des plus beaux albums de la série Alix. Voilà. Alors, nous rappeler qui était Jacques Martin, né en 1921 et il nous quitte en 2010. Jacques Martin, c'est quelqu'un qui est né à Strasbourg, qui va déménager ensuite en Belgique. Il a fait des études de génie industriel. Son père était aviateur. On le retrouve même comme héros dans L'Arme Absolue, son autre série. Il va découvrir la BD avec la série Buster Brown, .co. Et c'est un grand lecteur de Jules Verne, de François Villon aussi. Il va travailler au dessin industriel au début. Il est très bon pour dessiner des avions. Et à l'époque, il hésite entre les métiers d'ingénieur ou les métiers de metteur en scène de théâtre. Et du coup, par rapport à des rencontres qu'il va faire après être venu en Belgique, il va s'essayer à la bande dessinée, alors sous un premier pseudonyme qui s'appelle Marleb. Et avec ce pseudo, il va créer Jacques Emine, Monsieur Barbichou. Et effectivement, plutôt pour un office de publicité, il va essayer de lancer une revue, la revue Jackie, où il va s'amuser à dessiner toutes les séries. Donc on voit qu'il est capable de trouver des traits, des personnages différents. Donc il se cherche à l'époque. Il va travailler un peu plus pour Bravo avec donc Jean Dratz, qui était un ami. Alors pour Bravo, il va créer la série Œil de Perdrix, qu'on trouve encore en album, l'histoire d'un indien. Il va développer une série plus réaliste qui s'appelle Lamar, l'homme invisible, qui est un peu une variation sur Flash Gordon. Et sa première grande œuvre, on va dire, qui lorgne un peu du côté de Jacobs, c'est La Cité Fantastique aux éditions Ardent 47, et c'est un personnage qui est inspiré par un héros de dessin animé qui s'appelle Clark, et on est encore dans le monde de l'aviation. Le moment clé, c'est quand il va, étant un grand lecteur autour du Moyen-Âge et autour de l'Antiquité, il va quand même avoir l'idée de créer un personnage, Alix, dont on va parler après. Il va le proposer à Raymond Leblanc, qui dirige le journal Tintin, et petit à petit, à partir de 1948, la sauce va prendre, c'est-à-dire Hergé va valider, Hergé est un peu réticent au début, et petit à petit Jacques Martin va faire sa place, jusqu'à devenir des assistants privilégiés d'Hergé, le studio Hergé, où il va rester 19 ans, de 54 à 72. Et à partir de là, il va développer tout un épisode, toute une série d'histoires qui vont à la fois se trouver en Égypte, c'est la série Chaos, en Grèce, c'est Orion, le Moyen-Âge, c'est Gênes. Il sera souvent scénariste, hein, pas toujours dessinateur. Il va nous amener aussi au XVIIe siècle avec Loïs, avec l'épopée napoléonienne avec Arnaud. Et il va développer des séries sur les voyages de ses héros qu'il va confier à d'autres personnes, Alix, Gênes et Lefranc. Et malheureusement, en 92, une maladie des yeux l'empêche petit à petit de dessiner. Donc il va se centrer sur les scénarios et les dialogues et passer la main de son vivant à un certain nombre de dessinateurs qui continuent son œuvre aujourd'hui. Voilà. Donc on peut se rappeler des très belles couvertures du journal Tintin, le numéro 42 de la troisième année, où on voit Alix échapper à des crocodiles. On voit la qualité de la, du dessin de Jacques Martin, qui petit à petit sort de la ligne claire d'Hergé, hein, avec la griffe noire notamment. Et c'est très intéressant de redécouvrir cet univers. Voilà. Alors, on va écouter les deux planches, les planches 10 et 11 des Lésions perdues. Je dois juste vous donner un petit peu le contexte pour que vous compreniez ce qui se passe dans ces deux planches, qui sont des planches de, qui se passent dans une arène. Donc, il y a un complot qui est ourdi par Pompée, qui veut faire se soulever la Gaule pour éliminer l'autre consul qui s'appelle César. Donc c'est une histoire de conflit au sein du pouvoir romain. Donc effectivement, la stratégie, c'est de redonner aux Gaulois la fameuse épée de Brennus qui a armé les bras de Vercingétorix. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que effectivement, il y a Garofula qui est chargé de récupérer cette épée. Donc Alix, qui est un Gaulois mais travaille pour César, va tracer cette épée. Et il va poursuivre les émissaires de Garofula à travers toute la Gaule, malgré l'hiver, malgré les loups qui rôdent. Et au début de l'album, Alix est sur les traces d'un mystérieux voleur qui vole cette épée. Et ce voleur, il est vendu comme esclave et mis en jeu dans une arène par le traître Garofula qui travaille pour Pompée. Et donc Alix va faire acte d'héroïsme et se jeter dans l'arène pour sauver le témoin qui lui permet de prouver la duplicité et le complot qui est en train de se jouer. Voilà, donc on va écouter les deux planches qui sont des planches d'action.
Brusquement, la foule qui vocifère de plus belle prend le parti du malheureux Mirmillon et pour demander grâce, les pouces levés s'agitent partout. Mais dans la loge du consul Pompée,
c'est l'homme dont je vous ai parlé. Pour la raison que vous savez, il serait souhaitable qu'il ne sorte pas vivant de cette enceinte.
Ah, oui, entendu.
Le consul ostensiblement allonge le bras et d'un geste impératif, baisse le pouce en signe de mort. À cet instant, un jeune homme fonce à travers la foule, franchit la muraille et saute dans l'arène. Avant que le public ne soit revenu de sa surprise, il ramasse une arme et en quelques bonds, gagne le centre de la piste.
Arrêtez, je me nomme Alix. Par mon droit de patricien, je peux remplacer cet homme dans le combat. Toi, Agérix, va te poster plus loin. Silence, silence, peuple de Rome. Tu as pris parti pour ce gladiateur inexpérimenté et tu as demandé sa grâce. On te l'a refusé. Alors, puisque la loi le permet, autorise-moi à prendre sa place et, si je suis vainqueur, à racheter cet esclave.
Après quelques secondes de stupeur, le public, saisi d'enthousiasme, lance une formidable ovation.
Soit, mais alors si tu veux te mesurer avec moi, il faut être en tenue. Pour commencer, torse nu.
Et d'un coup sec, bien ajusté, le colosse arrache la tunique d'Alix. Mais vif comme l'éclair, Alix agrippe avec son trident celui de l'adversaire et par une série de torsions rapides et violentes, le lui arrache de la main, retournant ainsi la situation à son profit. Le colosse recule de quelques pas, décontenancé devant un rival qu'il ne soupçonnait pas aussi habile.
Maintenant que nous sommes à égalité, je te laisse le choix des armes. Que prends-tu? Le glaive du Mirmillon ou le trident du Rétière?
Je reprends mes armes à moi.
Quelques instants plus tard, les deux antagonistes s'affrontent, cette fois dans un duel à mort. Inquiet de la tournure des événements, Garofula s'est approché de la loge consulaire.
Pourquoi es-tu venu jusqu'ici? Tu sais bien que le consul n'aime pas que l'on vous voit ensemble en public. C'est trop dangereux. Je lui ai transmis ton message et il a agi aussitôt. Mais aujourd'hui, il n'y a rien à faire contre la foule.
Pourtant, il était essentiel que nous soyons débarrassés de cet esclave. Et maintenant, il faut qu'Alix soit tué. Répète-le au consul, je t'en conjure. Il connaît l'importance de l'enjeu.
Pendant ce temps, la lutte est devenue acharnée. L'agilité et l'adresse équilibrent la force brutale. « Excellence, excuse-moi de t'importuner encore avec cette affaire, mais...
Je sais, mais je ne peux pas risquer une émeute ici, alors qu'il y a moyen d'arranger cela autrement. D'ailleurs, regarde, ce jeune fou, malgré tout son courage, va se faire massacrer.
En effet, le gladiateur a réussi à emprisonner un bras d'Alix et l'a coincé contre un mur. Il va l'égorger.
Meurs donc, chien!
Voilà, alors, vous pourrez bien entendu les retrouver dans les albums, les regarder, quelques commentaires rapides pour vous montrer l'art de Jacques Martin, c'est-à-dire l'art de Martin, c'est une ligne très franche avec des contours cernés, un sens du vide, hein, des aplats et des couleurs. Alors, avec l'effort qui est fait en 65 de réduire la taille des phylactères, c'est-à-dire qu'au début, on lui reprochait comme à Jacobs d'avoir trop de dialogues, trop redondants. Là, on a une épure hein, dans la question des dialogues. Par contre, c'est vrai que le dessin est toujours très figé. En témoigne, effectivement, dans la deuxième planche, toute une espèce de tableau où on voit des postures qui sont des images de la posture d'un gladiateur. Donc il y a ce côté didactique qui apparaît toujours chez Jacques Martin, même au sein d'une scène d'action. On pourrait faire un coupé-collé et avoir effectivement une planche d'une encyclopédie. Et du coup, la narration de Martin est plus motivée par l'observation que par l'action, même quand il nous donne à voir un duel et qu'à la fin, la vie d'Alix est menacée. Alors, pourquoi ce cliffhanger terrible sur ce qui arrive à Alix? C'est que ça paraissait dans Tintin, et à l'époque, il y avait deux planches par numéro, et il fallait, pour que les gens achètent Tintin, mettre le héros en danger à la fin de la deuxième planche. C'est le cliffhanger classique. Alors, Alix, bien entendu, va survivre à cette épreuve de la reine. Il va continuer, il va, bien entendu, déjouer ce complot. Et pour nous rappeler qui est Alix, eh bien, Alix est le fils d'Astorix, et pas d'Astérix, attention, rien à voir. C'est un esclave gaulois adopté par un Romain. Donc, avec Astérix, on a le point de vue des Gaulois, et avec Alix, on va avoir le point de vue de quelqu'un qui est plus ou moins romanisé et qui va naviguer hein, dans les méandres du pouvoir. Donc Alix, c'est un prénom gallo-romain hein, qui était effectivement donné dans la région de Lyon, et il y a un village en Bourgogne qui a le nom d'Alix. Alors, Alix, il va évoluer très peu, il va évoluer de 17 à 20 ans à peu près. On peut dire que c'est un mercenaire au début, hein, qui devient soldat, il devient un peu diplomate. Et en tout cas, on va le reconnaître avec un code couleur d'une tunique rouge. Et à côté de lui, il va avoir un jeune homme qui va le seconder, qui s'appelle Ena, qui est d'origine égyptienne. Lui, Ena, il a 15 ans et il est habillé en bleu. Donc vous voyez la complémentarité rouge et bleu. Et notre Alix, finalement, c'est quelqu'un qui a des idées assez modernes. Mais quelque part, il va être déchiré entre une forme d'idéalisme lié à sa jeunesse et puis son impuissance à changer le monde. Parce que quand je dis que le complot est déjoué, c'est jamais totalement la victoire absolue. Hein. Il y a toujours un peu d'amertume. Hein. Et effectivement, même s'il est pour César, il va, avec le temps, il va voir que même le César qu'il défend contre Pompée n'est pas si blanc que ça. Donc effectivement, il va quand même essayer à sa place de faire... de mettre en avant la justice et le droit. Hein, on peut dire que Alix est un humaniste qui va, quand il peut, essayer de se livrer contre l'esclavagisme. On a une petite dénonciation, là, il essaie de sauver un esclave. Et aussi, peut-être, montrer des éléments pour lutter contre la colonisation et voir les limites de l'apport de la civilisation romaine à l'Occident. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Alors, dans la série, effectivement, il y a tout un univers autour de l'amitié entre lui et Ennac. Hein. Ennac, c'est un prince qui apparaît dans le Sphinx d'Or, au tome 2. Et on a une amitié très passionnelle entre les deux, hein, qui ne va jamais aller au niveau de la sexualité, mais beaucoup de gens ont commencé à fantasmer sur le hors-champ de ce qui se passe quand on les voit coucher ensemble. Voilà. Mais il n'y a jamais de choses très explicites là-dessus. Alors la question de l'amour et du rapport au féminin est très complexe, puisque Alix rencontre des femmes fortes, la reine Adrea dans le dernier Spartiate, mais cette femme est prise dans une tragédie, dans une complexité, et l'amour est impossible. C'est la même chose avec Saïs dans le Prince du Nil, et la jeune Malua qui va courir à moitié nue pour retenir Alix, eh bien, bah, malheureusement, ça ne sera pas possible. Et là, dans cet épisode, on voit que Ennac est assez jaloux, donc c'est assez étonnant. Hein, le rapport Alix n'arrivera jamais à se caser avec une femme, sinon il n'y aurait peut-être plus d'aventure d'Alix, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un méchant, un méchant qui est un grec, qui est un peu efféminé. Lui, du coup, il est très bien paré, il est très beau sur lui, mais c'est un espion. Donc, c'est un Arbacès. On va le retrouver dans plusieurs épisodes. Il est dans des intrigues. Voilà, un personnage assez toxique. Et donc, du coup, tout cet univers va être très documenté. Hein. C'est-à-dire que Jacques Martin, autant il va récupérer la documentation de Willy van der Stein, qui est un grand dessinateur, qui a énormément capitalisé d'images sur l'histoire de la Gaule. Et Martin se rend régulièrement au musée du cinquantenaire à Bruxelles, où il y a toute une partie sur la Rome antique. Donc là, il fait des croquis, et toujours, comme chez Vance, c'est toujours très très bien documenté. Alors, Martin, on l'a compris, est aussi un grand amateur de bande dessinée, donc ses influences graphiques sont très larges. Ça commence par Alex Raymond et Flash Gordon pour sa première bande dessinée. Et il y a bien entendu Hergé. Hergé, c'est son voisin hein, à Bruxelles. Quand il était petit, il voyait les films fixes de Tintin. Il va essayer de se démarquer du style d'Hergé. Il va aussi être très influencé par le style de Jacobs. Et Jacobs va être un petit peu jaloux. Il va le défier en duel, notamment sur la série Le Franc, hein, que Jacobs prendra très mal, parce que c'est un peu sur les thématiques de Black et Mortimer. Mais ça va se résoudre très très bien. Et aussi une amitié avec Cuvelier. Hein. Cuvelier aurait dû travailler sur un scénario avec Martin qui s'appelle L'Ogre Rouge. Et Cuvelier va finalement, c'est l'auteur de Corentin, va laisser tomber la bande dessinée et Jacques Martin reprendra le scénario dans un album d'Alix qui s'appelle Les Froids du Volcan. Citer quand même deux peintres de l'histoire de la peinture française qui inspirent Martin, Léon Gérôme, hein, qui peint des combats des arènes qu'on voit dans l'album cité aujourd'hui, et Lucien Royer qui peint hein, en 1899 la défaite de Vercingétorix. Voilà. Alors, après les références qu'on va avoir dans la culture de Martin pour sortir ses histoires, puisqu'il est quand même son propre scénariste, c'est la lecture de Gustave Flaubert, Salammbô, qui va inspirer aussi, on le sait, Drouillet. Et l'influence de Salammbô est très précieuse et très visible dans La Griffe Noire, Le Spectre de Carthage. C'est aussi Marguerite Yourcenar et ses Mémoires d'Adrien, dont on voit un écho dans Le Prince du Nil. C'est l'histoire générale de Gustave Klotz, l'histoire romaine de Jérôme Carcopino et tous les feuilletons hein, d'Alexandre Dumas et de Flaubert aussi qui vont imprégner l'imaginaire de Jacques Martin, ainsi que le cinéma, puisque le premier Alix est un peu un décalque de l'ouverture du film Ben-Hur, hein, quelque part. Voilà. Et pour tout l'univers un petit peu glauque, parce qu'en fait, on va pas montrer que le... on va montrer les dessous, hein. C'est l'univers de Pétrone, du Satyricon, tel que Fellini va le mettre aussi en scène dans son film. Voilà. Alors, le style de Jacques Martin, c'est un style qu'on va qualifier de semi-réaliste, mais qui va évoluer vers le réalisme, c'est-à-dire le semi-réaliste, c'est Hergé, hein, la ligne claire. Et Martin, dès l'album qu'on évoque en 65, finalement, bon, ça commence avec la tiare d'Orbal et ça se développe vraiment dans l'album Les Légions Perdues. C'est vraiment il lâche la référence à Hergé, il essaie de s'autonomiser, il crée son propre style qui peut aller, si on parlait peinture, d'un style un peu néoclassique, c'est-à-dire un idéal de puissance dans les dessins. Et cet idéal de puissance est souligné par la qualité qui est portée aux perspectives. Hein. Effectivement, Hergé a dit à Martin en 1948 qu'il avait des progrès à faire, et je pense que Martin a entendu Hergé en se démarquant de lui et en travaillant de plus en plus, notamment dans les modelés des corps, qui dès La Griffe Noire, en 1957, se font de plus en plus sensuels. En tout cas, on le voit dans l'extrait évoqué, c'est le sens des décors, hein, la façon dont il met en scène ses arènes, ses combats. Bien entendu, le dessin est figé peut-être, où il n'y a pas le sang du mouvement, mais cette beauté plastique marque amplement le lecteur. Alors, à travers ces albums d'Alix, une vingtaine en tout, Martin va traiter une palette de thèmes très intéressantes, avec en sous-texte peut-être à la fois l'histoire documentée, des livres d'histoire, mais aussi peut-être ce qui est caché derrière cette histoire. On peut montrer aussi par moments le jeu des forces telluriques, les volcans, les incendies et les cataclysmes, les cultes de Moloch, les sacrifices, la magie, l'orichal dans Le Spectre de Carthage, l'épucurisme et la décadence des mœurs, et aussi à un moment donné la défense d'une transidentité dans L'Enfant grec qui a touché un jeune qui fait une lettre que Martin cite dans ses mémoires. Voilà. Donc effectivement, tous ces thèmes sont repris d'un album à l'autre, La vanité de la guerre dans Les Légions perdues, au dernier Spartiate, Les rêves impossibles de grandeur autour de Yorix le Grand ou de Vercingétorix, et tous ces mondes fantastiques, un peu surnaturels. Ça commence avec le Sphinx d'or et dans L'île maudite, ça explose. Et bien entendu, par moments aussi, l'idée du rêve, hein, notamment la scène du rêve d'Athéna, où Alix voit Athéna dans le dernier Spartiate, ça, ce n'est pas que de l'histoire classique, c'est tout un univers. Voilà. Et cet univers, forcément, il va avoir une postérité assez importante. Alors, un des premiers sens qui montre que cette revue a marqué, c'est le fait qu'elle a droit, une des premières à avoir droit à un disque d'aventure avec un visuel inédit en 58. C'est assez intéressant. On a même l'épée de Brennus qui est adaptée en scénario à la radio, à l'ORTF en 66. Il y a une série animée, Alix, qui n'est pas extraordinaire, mais Et puis après, tout le développement, finalement, d'une encyclopédie visuelle des voyages d'Alix. Une expo avait Alix en 82 à la chapelle de la Sorbonne. Au Centre Belge de la BD, Alix, les 50 ans d'un thriller, vous voyez, l'idée pour montrer la modernité. L'art de Jacques Martin, qui est la dernière grande exposition au musée de la bande dessinée d'Angoulême, repris au musée des Beaux-Arts de Bruxelles, où Martin allait lui-même s'inspirer. Et il est clair que Martin a souhaité que Alix soit repris. Hein. Et donc, depuis 2005, on a un comité éditorial que pilotent ses enfants. Et donc, du coup, nous rappeler que Jacques Martin, il termine Alix en 1988. Alors, il dessine encore une partie du Cheval de Troie. Et sur O Alexandrie, il passe petit à petit la main, parce qu'il n'y voit plus. Voilà. Donc, les derniers Jacques Martin, c'est les tomes 19 et 20, avec O Alexandrie. Déjà, sur le tome 19, il y a Jean Pleyers qui va l'aider. Et Jean Pleyers va développer aussi une série sur le Moyen-Âge, qui est très belle, la série Jen. Après, effectivement, nous rappeler que Jacques Martin a mis en place une autre série parallèle, qu'on évoquera dans une prochaine émission, qui est une série plus moderne, qui est un décalque d'Alix, peut-être, à notre époque. Ça s'appelle L'Histoire de Lefranc, avec La Grande Menace, L'Ouragan de Feu et autres. Et dès 96, on a des binômes, c'est-à-dire que Jacques Martin va travailler avec Raphaël Morales sur Les Barbares, il va travailler avec Patrick Weber sur La Cité engloutie, donc plusieurs... Et petit à petit, quand Jacques Martin se retire totalement, on a 5 équipes de dessinateurs qui continuent. Alors, on a notamment Marco Venazzi, on a Valérie Mangin au scénariste, Milien aussi sur La Reine des Amazones, qui est un des derniers sortis. Et la série Les Voyages d'Alix continue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi 2 spin-offs qui donnent 2 temporalités différentes. C'est en 2012, on a un Alix vieux. Un Alix vieux, il a du coup, il a 56 ans. Et c'est une série qui est de Valérie Mangin. Et c'est assez fabuleux. Valérie Mangin et Thierry Desmarais au dessin. Et là, on a le pitch suivant. Alix est devenu sénateur. Il vit à Rome avec son fils et Képhren, le fils d'Enac. Mais Enac lui a disparu. Et donc, Alix, dans cette posture de sénateur, va être confronté à un certain nombre de complots, encore une fois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une maturité dans cette série qui est peut-être encore plus pour adultes que la série originale. Et par contre, en 2019, on pense aux plus jeunes avec un petit look un peu manga, on va dire que c'est Marc Bourgne avec un scénario de Laurent Libessart qui lance Alix Origine. Alors on va parler de l'enfance du Gaulois, la reine en péril, donc c'est une série qui est pour les plus petits. Donc vous voyez, Alix, c'est assez cohérent finalement cet univers en 3 grandes séries qui continuent. Alors, pour terminer, nous demander si cette série est toujours là, c'est qu'elle a du sens et qu'est-ce qu'on peut tirer comme fil conducteur. On pourra relire le travail de Patrick Gomer, de Thierry Gronstein. Il y a effectivement 2 grosses études magistrales sur le travail de Jacques Martin, hein, pour aller un peu creuser tout ça. Se dire qu'on a là vraiment le fleuron de la BD historique avec un auteur qui est aussi un romancier. Donc on n'a pas que l'histoire, c'est ça qui est intéressant. On a les deux. On a quelque part une série qui est un éveil à la vérité complexe du monde. Hein. François Rivière, dans les cahiers de la BD, numéro 20, parlait d'une initiation au soleil. Et pour être initié au soleil, il faut voir l'ombre. Et c'est tout ce que nous fait cette série, à travers effectivement l'idée que chaque histoire n'est pas une histoire vraiment d'héroïsme pur. Alix se trompe parfois. Hein, on a toujours quand même une idée de tragédie qui apparaît à la fin des histoires. Et finalement, la question que la défaite gauloise était un vecteur de civilisation est questionnée. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas dire que les Gaulois sont une civilisation magnifique, ni les Romains. C'est-à-dire que petit à petit, il va y avoir une sorte de relativisme qui va se mettre en place. Et Martin va mettre en avant ce qu'on appelle les passions tristes du pouvoir, hein, qu'on appelle l'hubris, et la réalité des forces occultes. Hein, dans un entretien qu'il donne avec Thierry Grandstein, il parle des forces occultes qui pour lui existent vraiment. Donc quelque part, cette série est plus complexe qu'il n'y paraît. C'est pas seulement de l'histoire, c'est une vision du monde. Et c'est aussi, pour terminer, la passion qu'avait Jacques Martin de nous raconter des histoires. Et le rêve de Martin, il est présent aujourd'hui, puisque la série continue, et un de ses rêves, c'était le suivant. Il disait que pour que son travail ait du sens, et ce qu'il a toujours aimé faire, c'est faire travailler des artistes et donner au public de nouvelles aventures à lire. Voilà le rêve, et voilà ce rêve qui est réalisé aujourd'hui à travers la série Alix, tome 42, et les deux autres séries, Alix Sénateur et Alix Origine. Voilà, monsieur Martin, vous devez être content, votre œuvre est bientôt immortelle.